vie paysanne.
Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins.
Deuxième vie.
Je me dis que c'est plaisant d'être né paysan. Quand il pleut, je reste au dodo. À l'ombre, quand il fait trop chaud.
Laurent Feller et Florence Weber nous parlent de Carole, paysan du nord de l'Italie du 9e siècle, et de ses stratégies sociales ainsi que de ses liens avec le reste de la société.
Écoutez l'aventure d'un pauvre villageois, moi qui de ma nature suis honnête et courtois. Un beau jour je promis à ma chère Claudine de la servir gratis le long d'une semaine. Le lundi pour lui plaire, je pris la bêche en main. La matinée entière, je pêchis son jardin. Puis fut tout droitement m'asseoir au pied d'un chêne. D'un baiser charmant, elle me paye ma peine.
Carole est un paysan qui vit au 9e siècle en Italie. Nous avons la chance d'avoir sur lui un dossier extrêmement important d'une quarantaine d'actes de vente. En fait, de lui, tout ce qu'on sait, c'est ce que l'on a reconstitué en analysant les actes de vente, c'est-à-dire en se demandant à qui il vendait, où il vendait, et en essayant de reconstituer la chronologie. Il a été possible, en analysant les actes un par un et avec un temps très précis, de reconstituer sa généalogie, d'une part, sur trois générations, pas beaucoup plus, mais pour des paysans du 9e siècle, trois générations, c'est beaucoup. Et surtout, de voir aussi quelles étaient la profondeur des familles alliées, c'est-à-dire de voir quelles étaient les stratégies matrimoniales, de comprendre quelles étaient les familles qui intéressaient économiquement et socialement, et politiquement aussi, notre bonhomme, et d'étudier tout cela sur une période qui va de 840 à 875 à peu près.
À quoi ressemble cette fortune de Carole ?
Dans les structures des fortunes du temps, c'est une toute petite fortune. Il fait partie des élites rurales, et pour plaisanter, on peut dire qu'il appartient à la fraction dominante de la partie des dominés. C'est-à-dire que c'est un homme aisé, qui a suffisamment de terre pour s'en sortir à peu près, pour entamer une ascension sociale, sans la réussir, parce que précisément il est sur la limite de plusieurs mondes, et qui finit par échouer par excès d'ambition. C'est-à-dire qu'il a dû, pour parvenir à ses fins, s'endetter, et ce sont ses enfants qui ont dû solder ses dettes. On a été contraint de vendre le patrimoine, mais avec des incidences complexes qui n'ont pas réduit, qui ont fait que la famille n'a vraisemblablement pas été réduite à la misère, envoyé au monde à la fraction dominée de dominée, mais que la famille en question s'est intégrée à un niveau très bas dans la dépendance du seigneur local qui était un grand monastère.
Et quelles étaient donc les stratégies? Vous avez dit qu'il avait pêché par ambition. À quoi on voit cette ambition? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire?
Il a essayé de se marier de marier ses enfants dans des familles plus aisées, mais politiquement supérieures à lui. C'est-à-dire dans des familles qui avaient des titres ou des fonctions, non pas honorifiques, mais véritablement de responsabilité politique, mais un tout petit échelon, un échelon local. C'est-à-dire des officiers qui devaient réunir des petites assemblées de justice. Ces familles-là sont des familles importantes, parce qu'elles assurent une forme de promotion. Et viser le mariage à l'intérieur de ces familles, c'est éventuellement assurer ou penser qu'on va assurer une ascension sociale à la génération suivante. Ça a un coût. Quand même, parce qu'il faut assurer économiquement et matériellement et être sûr, dans les systèmes matrimoniaux du temps, que l'on puisse doter les enfants.
Il en avait combien, on sait ?
Trois garçons et une fille. Et là, donc, pour marier trois fils dans des situations favorables, ça marche dans un cas où on n'a pas d'histoire sur ce cas-là. Ça fonctionne assez bien. Dans un autre cas, le fils se fait plumer par son beau-père. C'est-à-dire qu'il est contraint au cours de son mariage à transférer l'intégralité de ses biens. Après, non seulement il a donné le quart de ses biens à son épouse au moment du mariage, mais dans le courant du mariage, pour faire plaisir à son beau-père, ou on sait pas pourquoi, il transfère l'intégralité de ses biens à son beau-père, lequel les redistribue aussitôt à ses enfants à lui, ce qui organise un transfert patrimonial du gendre au beau-père et au, à la belle-famille.
À la belle-fille.
Ce qu'il dépouille. Et du coup, alors qu'il s'était marié, il se retrouve dans une situation de mariage en gendre, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire, il est entré dans la famille pour acquérir du bien, de l'honneur, et il a tout perdu au bout du compte. Bien et honneur.
Mais est-ce que le cas de Carole est en soi exceptionnel ?
Nous avons très très peu de documentation permettant de faire ce genre de reconstitution. La documentation que l'on a ne concerne que très rarement le monde paysan. C'est-à-dire que ce que l'on a d'habitude, c'est une frange bien au-dessus de la société, normalement l'aristocratie haute ou basse. Et donc, un document qui nous conserve la trace des transactions rurales, transactions foncières, de ce niveau social-là, j'en connais pas d'autres. En fait, il y en a peut-être un autre du côté de Saint-Gall, en Suisse, mais ce n'est pas un document qui a été enquêté, qui a été dans ce sens-là. Tout ce qu'on a à Saint-Gall, on a trouvé des gens qui ressemblent un peu à ça. Mais c'est précisément des gens d'un niveau social qui est visé comme but politique à atteindre, comme dans la stratégie d'ascension, par Carole. On a donc ce niveau paysan est excessivement difficile à comprendre. Et c'est d'autant plus intéressant que la structure foncière du IXe siècle est écrasée par la documentation que l'on peut avoir sur les très grandes propriétés foncières. Et ici, on voit qu'il y a un monde beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous avez d'une part les très grosses fortunes foncières, il y a des esclaves, il y a du travail forcé, du travail contraint. Et ici, on a un monde de la petite propriété et de la petite exploitation qui, normalement, est invisible. Je pense qu'il est exploitant direct. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Juste exploitant direct, il gère lui-même sa terre, il est sans doute patron de son exploitation.
Il est propriétaire de ses moyens de production.
Et
propriétaire de ses bœufs.
Propriétaire de ses bœufs, etc.
Ça, on est sûr.
Mais pour l'organisation concrète du travail, ça, on ne sait pas.
Et qu'est-ce qu'il cultive?
On sait qu'il y a du vin, parce qu'il y a des vignes avec un système d'évaluation qui est absolument extraordinaire de précision. Il y a du vin, il y a très certainement la possibilité qu'il y ait aussi un commerce du vin, une exportation vers la mer et vers les centres de consommation. Mais bon, c'est l'ordre de l'hypothèse, parce on sait qu'il y a du vin, on n'a pas de traces de route, on ne sait pas comment fonctionnent les ports, on sait qu'il y en a un qui est actif à ce moment-là, mais il est assez loin.
On sait qu'il y a beaucoup de parcelles de vignes, puisqu'on a reconstitué d'autres petites propriétés dans lesquelles il y a une partie importante en parcelles de vignes.
Là où vous étiez trois, alors comment ça s'est passé?
Alors, on a travaillé avec une économiste, Agnès Gramin, et on travaillait déjà, Agnès et moi, ensemble, donc économétrie et ethnographie, sur des terrains contemporains, depuis assez longtemps. Et on avait discuté de questions d'histoire économique, de questions théoriques autour de la place du marché, la place de la modélisation économétrique dans les sciences sociales contemporaines. Et puis on a rencontré Laurent qui nous a apporté ce dossier extraordinaire de transactions. Et à ce moment-là, Agnès et moi, on a été intéressés par travailler ensemble sur ce dossier, Agnès prenant tout ce qui était, tout ce qui pouvait donner lieu à l'interprétation en termes de marché de la terre et de prix foncier, donc tout ce qui était calculable et qui permettait de faire des statistiques et de faire une modélisation du prix. Et moi, j'étais intéressée par tout ce qui relevait des structures de parenté et des éléments les plus personnels, des relations personnelles qu'on pouvait avoir dans le même dossier. Et on avait la chance d'avoir un dossier suffisamment complet pour qu'il y ait une très grande partie des transactions qui donnaient des mesures, donc qui permettaient la statistique, et également une très grande partie qui permettait de repérer des relations personnelles. Donc comme on avait l'habitude de travailler ensemble, économétrie et ethnographie, on a eu cette chance extraordinaire de tomber sur un dossier qui était à la fois très important et très réduit par rapport à ce sur quoi on travaille d'habitude. On est quand on travaille sur le contemporain, on est juste complètement écrasé par la documentation. Là, on avait une documentation riche pour le Moyen-Âge, mais très pauvre par rapport à nos instruments habituels, et du coup beaucoup plus agréable pour nous, parce que c'était un défi de avec cette documentation de faire jouer nos outils. Donc ça a été un très grand plaisir pour nous que Laurent nous propose ça. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu tout le travail avec Laurent, parce que ce qu'on proposait pouvait être complètement aberrant du point de vue contexte. Et donc, on avait toujours besoin que Laurent nous dise si ça avait du sens, ce qu'on lui racontait, ou si c'était juste des élucubrations.
Et c'est assez compliqué, parce que, en fait, ce travail avec Florence et avec Agnès Gramin m'a contraint à remettre en cause certaines hypothèses, certains interdits qu'on avait, notamment les interdits sur le calcul, ou sur les mesures. Il y avait des choses que je ne voulais pas faire, que je n'avais pas faites et que j'étais contraint de faire, mais ça a donné du résultat, et des résultats robustes. Et donc, c'était indispensable, c'était utile de le faire, donc de se forcer un peu. Que ça s'est passé en deux temps. On a, avec Agnès Gramin, on a dans un premier temps examiné, fait les affaires économétriques, c'est-à-dire qu'on a essayé de calculer sur le long terme, entre le 9e et le 11e siècle, l'évolution de l'unité de surface, du prix de la Terre, donc, ça, c'était méthodologiquement, justement, les choses interdites. Et c'était ce qu'il fallait faire absolument, puisque Agnès a réussi à montrer qu'il y avait une évolution, et que si on posait la question d'une certaine manière, tout cela avait du sens. Qu'on arrivait à trouver des chiffres qui étaient interprétables, et qui n'étaient pas aléatoires. Et que donc, il y avait, non pas de l'arbitraire dans la formation, dans la fixation plutôt des prix, mais qu'il y avait une rationalité qui relevait de quelque chose qui ressemblait à du marché. Ce qui va par derrière, c'est des questions théoriques assez lourdes. Est-ce qu'il y a un marché, et particulièrement un marché de la Terre, durant le Haut Moyen-Âge? Et quels sont les freins qui pourraient faire que l'on ne peut pas parler de marché, ou de marché de la Terre plus spécifiquement, durant cette période-là? Et c'est ça qu'on est d'abord cassé, et c'est ensuite là-dessus qu'on est revenu, en utilisant une documentation qui va de 840, à peu près même un peu avant, jusqu'en 1100, à peu de choses près, 1000 chartes, à peu de choses. On a élagué tout ce qui ne comportait pas de mesures. On a viré tout à la hache, tout ce qui n'avait pas de surface, tout ce qui n'avait pas de prix. On a laissé tomber toutes les transactions qui ne pouvaient pas être des transactions commerciales parce qu'elles ne donnaient pas lieu à une évaluation. Puis, après ça, Agnès a fait ses calculs. Mais comme on avait viré toutes les données qui étaient des données intéressantes au point de vue social, qui pouvaient établir qu'il y avait des liens entre les personnes en dehors de la relation provisoire transitoire de marché, on les a réintroduits. Et on les a réintroduits justement avec le travail de Florence sur les transactions et sur les liens que les transactions dénoncent.
Ou fabriquent.
Oui. Fabriquent.
C'est-à-dire que on a là, dans la deuxième partie, on a montré comment certaines transactions marchandes évaluées avec un prix pouvaient renforcer des relations personnelles ou au contraire les rompre. Donc on a vraiment travaillé sur ce que faisait le marché aux relations personnelles.
Donc vous avez en quelque sorte un peu tissé le réseau qui s'élabore autour de Carole, c'est ça?
Oui, oui, le point de départ ressemblait beaucoup à une analyse de réseau.
Juste le plaisir que vous avez eu à travailler sur un document aussi.
On s'est beaucoup amusé. Surtout vous l'avez, c'était une affaire, c'est vrai, à peu près une fois. Tous les 15 jours, pendant 3 heures. Donc, sport de petit séminaire à 3. Et c'était un rendez-vous extrêmement agréable, mais compliqué, parce que chaque fois on travaillait beaucoup. C'était pas simple à élaborer, mais c'était vraiment très, très chaleureux. Et puis en plus, c'était cette sensation pour moi de faire des choses que j'avais pas le droit de faire.
Aux élections, naturellement, on a des primes d'encouragement. Comment qu'on nourrirait le bétail sans moutons? Autant de vaches, je compte pas la volaille. J'ai dû épouser sur le tard ma cousine qui a 200 hectares. Elle était pourtant pas jojo, mais la terre, mon vieux, dit qu'il y en a jamais trop. On ne mange que nos fruits gâtés, nos poulets qui se mettent à boiter. C'est qu'aujourd'hui les temps sont durs, mieux vaut être économe si on veut que ça dure. Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins,
Je me dis que c'est plaisant d'être né paysan. Youhou!